Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis Fabienne Lemayeux, je suis rédactrice en chef au quotidien La Croix, en charge des livres. Je suis très heureuse ce soir de vous accompagner pendant ces trois quarts d'heure pour parcourir les couloirs de l'Académie française avec vous, Catherine Mariuzzo. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes notamment en charge des événements et des actions pédagogiques de l'institution. C'est une phase peu connue de l'Académie que vous nous ferez découvrir bientôt. Et avec vous, Daniela Ferrière, bonjour.
Bonjour.
Daniela Ferrière, vous fêtez cette année votre première décennie à l'Académie, puisque vous occupez depuis décembre 2013 le fauteuil numéro 2, celui de l'Argentin Hector Bianchiotti. Je ne sais pas si je prononce bien.
Et tout à fait.
Et avant lui, notamment Montesquieu et Alexandre Dumas, fils. Vous êtes né à Port-au-Prince en Haïti. Vous vivez entre le Québec et la France, car il n'est pas nécessaire d'être français pour siéger sous la coupole et défendre la langue française. On en reparlera, j'espère. Les lecteurs français vont se découvrir en...
Je n'ai pas compris que je vis entre deux pays. Je suis dans l'océan, là.
Sans doute.
Enfin, je n'aime pas me faire suivre. C'est-à-dire, je vais partout où l'on m'invite. Et c'est l'une des raisons précises pour laquelle j'écris. Et comme j'ai écrit dans ce livre, j'écris, si vous aimez ce que j'ai écrit, j'apparais. Comme ici, vous savez. Les lecteurs, les écrivains écrivent parce que la nuit, les lecteurs, les lectrices réclament un nouveau livre, tout doucement, dans un chuchotement, et l'écrivain l'entend. Il entend cette demande. Et c'est uniquement ça pour la raison pour laquelle on se lève au milieu de la nuit avec une sorte de fringale d'alphabet. Et on se met à griffonner parce que quelque part, au bout du monde, quelqu'un a voulu qu'on se lève pour écrire parce qu'il vient de finir avec une situation de... Avec une, malgré la distance, il vient de finir le nouveau livre, il voudrait un second et le réclame comme un enfant. Nous, on obéit, c'est un peu ça, la littérature.
Ça commence bien. Merci. Donc, effectivement, demain, je vous invite tous à aller écouter Daniela Ferrière parler de Un certain art de vivre qui vient de sortir en cette rentrée littéraire chez Grasset et pour lequel vous êtes ici aussi en signature. Mais aujourd'hui, vous nous faites entrer au 23 Quai de Conti pour nous raconter, avec vous Catherine, la face cachée de cette institution, 4 fois centenaire, 40 fauteuils élus à vie par leur père, 35 sont aujourd'hui occupés, et un secrétaire perpétuel qui est depuis septembre le franco-libanais Amine Malouf. Alors, de l'Institut, on connaît le dictionnaire, le Grand Prix du roman, on suit les élections avec passion, on la respecte, on aime bien la critiquer aussi, et sans la connaître vraiment complètement, et tous les deux, vous prenez la défense de l'Académie française avec éloquence.
Je ne défends pas l'Académie. Comment peut-on défendre une institution vieille de 400 ans? Nous sommes tous des gosses. Et nous sommes à peine nés face à une institution comme ça. L'une des raisons d'être d'une institution pareille, c'est qu'elle n'entend pas. Elle n'entend pas, elle suit sa route, comme ça. Et voilà, sans regret, sans explication. Et c'est toujours la bonne question à se demander... devant une pareille institution, pourquoi elle poursuit sa route malgré tout? Et il faut dire que les gens qui l'ont critiqué le plus, ce sont ceux qui y sont. Voltaire a été assez dur et beaucoup d'académiciens ont commencé par critiquer l'Académie et pour après rejoindre les rangs. Et c'est la force de toute institution et c'est le droit des gens de critiquer. Et précisément... Et parce qu'on se nourrit de critiques. C'est comme ça. À chaque fois qu'on dit quelque chose qui conteste l'Académie, elle devient plus vivante.
Daniela Ferrière, à quel moment vous êtes-vous formulé ce vœu de rentrer à l'Académie française?
Ah non, je ne l'ai pas su avant que j'ai croisé Jean Dormesson d'abord à une émission de télévision. Tout le monde connaît la générosité de Jean Dormesson. J'étais pour un livre, enfin, je faisais ma petite route d'écrivain. Et brusquement, j'entends un académicien dire « La littérature française, pour ma part, commence à Chateaubriand et se prolonge aujourd'hui avec Daniela Ferrière. J'ai pas compris que c'était de moi qu'il s'agissait, parce qu'il y a peut-être d'autres Daniela Ferrière. J'étais à côté de lui pourtant, et je me suis réveillé. J'étais endormi, et je me suis réveillé, et je me suis dit, j'aimerais bien parler plus souvent avec Dormesson, qui m'a écrit. J'étais trop intimidé pour lui répondre, et Dormesson a continué à m'écrire. Finalement, je lui ai répondu, et nous sommes devenus amis parce que, vers le 20 janvier, j'ai reçu une lettre à Montréal qui disait « Cher ami, j'espère que vous allez bien là où vous êtes ». Et la lettre était datée du 12 janvier 2010. Il l'avait postée le jour même du tremblement de terre. Et comme il y avait un décalage horaire, il l'a posté, il ne savait pas, il n'était pas au courant. Alors je me suis dit, ça doit être un ange gardien, ce Dormesson. Et voilà, comme ça, on est devenus amis, parce qu'un tel signe est extraordinaire. Et que quelqu'un vous écrive une lettre datée du 12 janvier 2010, au moment où la ville de Port-au-Prince explose. Et j'y étais.
Alors, pourquoi désirer être immortel quand on est écrivain ?
Non, je ne désire pas être immortel. Les académiciens ne sont pas immortels, sauf s'ils continuent à prendre les médicaments prescrits par le docteur Poliquet, qui lui est mort, malheureusement. Et non, c'est la langue française qui est immortelle. Et cette langue circule d'académicien en académicien, du moins pour le simple dictionnaire, qui est une forme de grammaire discrète aussi. Mais cette langue circule comme ça, d'académicien à académicien, et ne s'est pas arrêtée durant ces 400 dernières années. Et c'est ça qui est intéressant et qui impressionne, et c'est qui m'a impressionné, moi. C'est-à-dire, je déteste les distinctions, je déteste les choses, ou les particularités, mais quand même, il me semble que seulement la France aurait pu inventer une chose pareille. Faire de l'esprit un produit de luxe. Un produit de luxe pour tout le monde. C'est extraordinaire. C'est-à-dire, des jeunes gens se réunissaient chez un individu, un certain Conrard, qui se trouve sur le fauteuil numéro 2, mon fauteuil. Un jeune homme intrépide, brillant, qui réunissait les gens chez lui. D'ailleurs, quand j'ai été élu, Jean Dormesson m'a dit « ce n'est pas si rare que ça ». Et bien, Richelieu, c'est-à-dire l'État français, au lieu de chasser ces intellectuels turbulents, même s'ils faisaient partie de la cour, a voulu les rapatrier à l'État d'une certaine façon. Et a dit que ce serait intéressant qu'ils aient du travail à faire. On a un dictionnaire et une grammaire à faire pour cette langue. Et à confier, peut-être pour les garder sous la main, et à confier ce travail et à l'Académie française, le premier groupe, où il y avait 40 personnes et les mêmes fauteuils sont distribués jusqu'à maintenant. C'est pour ça que Cocteau avait dit que quand un académicien meurt, il devient un fauteuil. Donc si jamais je meurs, je reviendrai ici sous le nom de 2, fauteuil numéro 2. Donc c'est cela un peu, et cette Académie qui m'a impressionné. Et parce que Richelieu avait dit une chose incroyable quand même. On est en pleine cour française, Louis XIII, Louis XIV, et on entend un grand prince d'église et d'État dire pour cette académie, ni le rang, ni la classe, seul le talent. Ah, là, c'est incroyable quand même. C'est pour ça que des manants comme Voltaire sont entrés. Et seul le talent. C'est ça le fondement de l'affaire, pourquoi cette institution dure tout ce temps à traverser la Révolution, traverse, c'est parce qu'elle est fondamentalement, je dis, elle est plus que démocratique, elle est fondamentalement basée sur quelque chose d'absolument essentiel. La langue, qui est une passion populaire, on n'a qu'à toucher à la langue française, tout le monde se met debout dans toutes les langues. Il faut se le rappeler. Et c'est la chose que tout le monde, dont tout le monde se sert dans la vie. Cette langue est pour dire une parole, j'espère. Mais cette langue qui touche tout le monde ne peut pas dire que c'est quelque chose qui appartient à une élite. Et voilà qu'on confie aux jeunes gens les plus distingués du pays de s'occuper de cela et d'en faire un produit de luxe extraordinaire. Et entre-temps, ils ont inventé quelque chose d'assez français qui s'appelle la conversation. C'est-à-dire que des gens se réunissent dans une salle et se parlent. Incroyable. Quand j'étais enfant, c'était la chose que je détestais le plus. Quand je voyais les adultes assis, j'ai dit, je ne veux pas devenir ça. Et j'ai appris que Rimbaud aussi n'aimait pas les bonhommes assis. Et je ne comprenais pas ce jeu. Que les gens se réunissent et se parlent. Et maintenant, je ne fais que ça, je n'adore que cela. Au moins, on ne fait rien de mal.
Alors justement, qu'est-ce que ça a changé dans votre quotidien? Est-ce que vous pouvez nous expliquer aujourd'hui quel temps vous consacrez à l'académie, à ces discussions? À quel moment vous vous réunissez? Vous êtes effectivement entre deux dans un océan, mais à Paris, quand est-ce que vous êtes à Paris?
Bon, moi, j'ai un défaut, je ne peux pas faire les choses à demi. Alors, je suis élu à l'Académie française qui se réunit chaque jeudi, et j'y vais chaque jeudi, même si ma famille vit à Montréal. Donc, je loue un espace, un appartement à Paris, et j'y vais chaque jeudi. Il y a 12 commissions, je suis membre de toutes les commissions. Et il n'y avait que moi et Hélène Carrère-Dancos qui était membre de toutes les commissions. Et puis ensuite, je n'ai manqué que 2 jeudis en près de 10 ans. C'est comme ça, bon. On n'a rien manqué pendant la Covid. On a, sous la baguette d'Hélène Carrère-Dancos, elle a voulu que la commission du dictionnaire continue parce qu'on ne pouvait pas laisser tous ces individus et qui ne sont pas toujours solides. Et avec cette épidémie qui circule, dont l'État français a été obligé de dire non. Mais quand même, clandestinement, la commission du dictionnaire, comme sous la Révolution, s'était réunie quand même pour travailler, et naturellement, sur le dictionnaire. C'est quand même extraordinaire. C'était le seul groupe qui travaillait en présentiel. Ce mot est faux, d'ailleurs. Et on peut dire en absence, mais en présence, on ne peut pas dire. La présence est une évidence. Je n'ai pas compris comment on a choisi ce mot. On dit le contraire. C'est l'absence qui étonne, mais la présence. Alors, on avait travaillé. Et on était là ensemble. Et malgré toutes les discussions à propos de la Covid, et on était toujours présents à l'Académie. Les gens les plus âgés de France au travail étaient toujours au travail durant. Alors quand on dit que cette Académie est paresseuse, qu'elle ronfle, et on se trompe, et parce que l'un des hommes les plus énergiques de l'administration et de Louis XIV ou Louis XIII, Colbert, qui était, bon, on peut l'aimer ou ne pas l'aimer, moi j'ai de bonnes raisons de ne pas l'aimer, le colbertisme a fait beaucoup de mal à l'esclavage, mais c'était un homme énergique, un travailleur. On l'a dépêché pour aller voir ce qu'il faisait, ce type, en réunis ensemble. Et Colbert est arrivé et commençait à modester l'Académie en disant, on attend ce dictionnaire, qu'est-ce que c'est que ce dictionnaire qui n'arrive pas? Et on signale que nous avons terminé la semaine dernière par le mot « zi », c'est-à-dire « sommeil ». Et Colbert est resté et il a assisté à une séance. C'était le mot « ami » qu'on analysait, qui s'écrivait à l'époque « A-M-Y ». Et la question était, si je suis votre ami, est-ce que cela fait de vous mon ami ou pour... Donc, grande discussion. Vous voyez comment toute la subtilité, ça c'est la subtilité française, et je ne peux pas dire que vous êtes mon ami parce que je suis votre ami. Donc, l'amitié n'est pas quelque chose, une négociation. Et Colbert a été charmé, il est resté, il a trouvé qu'on est allé très vite. On a failli finir la définition du mot dans la journée. Incroyable. Ça ne s'est pas reproduit. Mais il est revenu comme membre. Et Colbert, l'infatigable Colbert, est revenu comme membre. Il a fait comme rapport à Louis XIV, il lui a dit, mais il travaille d'arrache-pied. C'est quand même pas mal comme témoignage que Colbert est plus un homme pressé, un peu énergique, presque, et puis voir que cette académie dont on dit qu'elle sommeille et travaille d'arrache-pied. D'ailleurs, moi, je peux dire que l'académie travaille trop. Je trouve qu'on va trop vite, qu'on obéit trop à ce que se dit dans le public, qu'il faut aller vite. Si elle va plus vite, elle va mourir. Elle a un rythme de croisière qu'elle a pris au fil des siècles. Ne bousculez pas la vieille dame, s'il vous plaît.
Daniela Ferrière, en quoi, peut-être pas d'ailleurs, en quoi votre travail à l'Académie nourrit-il votre œuvre et inversement?
Aucun travail nourrit mon œuvre. Ce qui nourrit mon œuvre a été en danger, si vous voulez l'appeler comme ça. Et quand j'ai eu cette catastrophe, en fait, c'est ce que Borges appelle la célébrité. Il l'a dit de manière plus élégante. Il a dit la cécité comme la célébrité m'est venue un peu tard. Donc c'est ce que je souhaite aux gens qui entreprennent, quelle que soit la forme d'œuvre, que la célébrité arrive le plus tard possible. Qu'est-ce qu'elle apporte, cette célébrité? Eh bien, elle vous dépouille de la matière de votre travail. Un écrivain ne doit jamais être repéré. Il doit parler aux gens et les gens se confient. Les gens sont contents de lui répondre. Quand vous êtes connu, les gens vous questionnent sur vous-même. En presse, on dit quand un journaliste devient le sujet d'un reportage, il n'est plus un journaliste. Quand un écrivain est questionné et qu'on veut savoir comment il vit, ce qu'il fait, eh bien, votre lectrice devient écrivain et vous, vous devenez lecteur. J'ai besoin de savoir, j'ai besoin de piller la vie des gens. Et il faut passer inaperçu, et pour ça que l'écrivain doit vivre dans une ville qu'il n'aime pas, et fréquenter des gens qui ne le connaissent pas. C'est cette façon de passer inaperçu qui permet de voir un peu comment les gens vivent, de voler leur vie, les détails de leur vie, pour pouvoir les mettre dans les livres. Donc le travail de l'Académie, c'est un travail de bénévolat. C'est-à-dire, pour vous dire d'abord, c'est un endroit où l'on s'enrichit. Si vous allez chaque jeudi à l'Académie française, vous risquez, si vous êtes présent, parce qu'on ne vous paie pas si vous êtes absent, de gagner 3 500 € à la fin de l'année. Ce qui ne peut pas payer mon loyer, là, voire pour la nourriture. Vous risquez de gagner 3 500 €, ce n'est pas beaucoup. Il n'y a pas d'appartement de fonction, il n'y a pas de chauffeur, il n'y a pas de voiture. Nous ne sommes pas tous pauvres. Valéry Giscard d'Estaing, avec son petit pécule, certains habitent dans les quartiers riches, d'autres habitent dans les quartiers pauvres. Et mon ami Cheng était ouvrier et en arrivant à Paris. Et d'autres, donc personne n'envie la richesse des gens. Moi, j'aime bien croiser les riches parce qu'au moins, ils ne m'empruntent pas le peu d'argent que j'ai dans ma poche. On ne fait pas la manche à l'Académie. Mais aussi, ce que j'aime à l'Académie, ce que l'Académie m'a apporté, c'est une connaissance intime de la mort. Quand vous entrez à l'Académie, la première chose qu'on vous dit, vous arrivez dans la salle, tout le monde se lève, la première fois que vous entrez. Et le secrétaire perpétuel vous dit, voyez monsieur, voyez madame, toute l'Académie se lève à votre entrée et elle fera la même chose à votre départ. Je suis là depuis 10 ans, j'ai vu 37 ou 39 personnes partir. Ça va vite. Ils sont remplacés dans une fête. Quelqu'un a dit d'ailleurs, j'aimerais bien qu'on fasse plus de fêtes. Bon, on lui a dit non, il faut que les autres meurent pour qu'il y ait une fête. C'est une la larme, comment il disait Jean Dormisson ? Une fête en larmes. C'est une fête en larmes, celle de l'Académie. Voilà.
Catherine Mariozzo. Alors, l'Académie, c'est aussi un service. C'est une structure qui porte des projets. On connaît le Grand Prix du roman de l'Académie française, hein, qui a été remis cette semaine d'ailleurs à Dominique Barberis, pour Une façon d'aimer, mais il y en a beaucoup d'autres, des œuvres sociales, des actions pédagogiques. C'est une vocation de l'Académie qui est peu connue. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'esprit et puis des outils, des hommes aussi et des femmes qui travaillent autour de ça?
Oui, bien sûr. Alors, je le ferai peut-être avec beaucoup moins de verve que Dany, mais l'académie est une petite structure. Il y a donc les 40 académiciens, mais nous sommes 23 à travailler au sein de l'Académie française. Il y a une quinzaine de personnes qui sont des lexicographes, des professeurs agrégés qui travaillent pour la partie dictionnaire, pour la partie enrichissement de la langue, mais on en parlera un peu plus tard. Et puis nous sommes quelques-uns à travailler pour des points précis. On a parlé du Grand Prix du roman. Il y a deux personnes qui s'occupent des prix littéraires, parce qu'on n'attribue pas seulement le prix du roman, mais on attribue tous les ans à peu près 70 prix littéraires qui vont donc du Grand Prix du roman, mais aussi en passant par la chanson française, le théâtre, le jeune théâtre, la biographie historique, les traductions. Donc c'est très varié. Et il y a une réception qu'on appelle réception pour la remise de tous ces prix littéraires qui a lieu en général le premier jeudi de décembre.
Qui les choisit, ces prix? Qui
Eh bien, ce sont dans les commissions.
C'est les membres de la commission. Alors, ça se traduit, ça se fait assez simplement. C'est-à-dire, il n'y a pas, comme pour le Grand Prix de l'Académie, ou le Goncourt, ou le Renaudot, ou le Fémina, il n'y a pas d'étape. On lit, quelqu'un, il y a l'ensemble des livres qui sont là, les académiciens qui sont membres de cette commission regardent, finissent par choisir, et puis on fait confiance aux gens, ils ne cherchent pas à entrer à l'académie, ils se sont déjà, et on leur fait confiance dans leur goût. Ce qui est intéressant dans ces prix, c'est qu'il y a 500 romans qui sortent à la rentrée, mais on ne fait pas uniquement sur les romans philosophiques, comme elle dit, poésie, et essais, histoire, et toutes sortes de grands prix aussi. Et c'est que le prix peut tomber sur n'importe qui. Il n'y a pas de stress. On ne vous a pas dit que vous êtes sur une liste, comme cette jeune femme au Bénin et qui a eu un prix littéraire qui est le prix du rayonnement de la langue française. Et c'est un grand prix de l'Académie, mais c'est le plus... Vous savez, le prix du rayonnement de la langue française, c'est donné un peu hors de France. Enfin, c'est regardé un peu de haut. Eh bien, on a tort. Et cette jeune femme m'a écrit, j'étais en route vers l'Institut français où je vais sûrement me faire refuser un projet où j'allais enfin présenter quelque chose à l'Institut français du Bénin. Et sur la route, j'ouvre mon appareil, je vois, vous avez le prix du rayonnement de la langue française. J'arrive à l'Institut, je dis ça à la directrice qui m'a dit, chic, on va y aller ensemble. Et immédiatement, naturellement, tout était accepté. Et puis, enfin, elle dit, mais ça me réchauffe le cœur. Parce que les prix, les 50 livres qui circulent à la rentrée, et même des fois les 25 livres qui circulent vraiment, c'est les mêmes qu'on voit sur la liste des prix littéraires. Et là, nous regardons un spectre très large, des gens qu'on ne connaît pas, qui viennent des villes de province, qui viennent ailleurs de la France, qui viennent de partout et qui ne se savent pas et sur une liste de prix. C'est ça qui fait le charme. Et quand il y a cette grande messe des prix littéraires où l'on remet les 70 prix avec, pour chaque livre, chaque prix, chaque personne, une petite explication de la raison pour laquelle cette personne est primée et du livre précisément, eh bien, ça fait comme un grand roman de la pensée française de l'année. Les gens qui viennent assister ont l'impression d'avoir un éventail large et de ne pas lire 10 articles sur le même livre. Et même si c'est très bien, moi, je veux que tous les journalistes écrivent sur moi seul. Mais je veux dire qu'on n'a pas envie. Et là, on voit les livres et les gens ont espoir. Ils ont l'impression qu'il y a un prix, le prix de l'Académie française. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose en France, mais quand vous l'avez au Bénin ou en Haïti, ça veut dire quelque chose. Les grands écrivains haïtiens avaient l'habitude au 19e siècle d'écrire sur leurs livres Frédéric Marcelin de la République d'Haïti. On lui a demandé un jour, mais pourquoi De la République en couverture? Il dit, c'est parce que je ne peux pas écrire de l'Académie française. Je n'en ai pas le droit. C'est-à-dire, il met son pays face à une institution pour montrer la place qu'on accorde à cela. Donc ces prix qui sont, j'ai donné l'Académie, un prix magnifique, en fait, pour le nom, c'est plus, un peu plus important, le prix François Mauriac. Le type m'a dit, mais on est loin de France. Il y a plein de gens qui ne connaissent pas François Mauriac. Un petit, pour le rayonnement de la langue française, ça ne fait plus d'effet. Parce que le rayon est plus large. Donc vous voyez comment une expression qui n'a pas de grand sens pour les Français, tu vois, rayonnement de la langue française, bon, si c'est à l'étranger, ça va, mais nous, on a un rayonnement, eh bien, ça prend tout son sens. Tout son sens. Et c'est des gens qui ont travaillé toute leur vie. Toute leur vie à faire rayonner cette langue, à se battre contre une langue où ils sont minoritaires à l'intérieur de leur pays et des fois mal vus, comme étant des vendus, comme étant des traîtres à la langue maternelle. Eh bien, je trouve que c'est bien, c'est justice qu'ils soient récompensés.
Je ferai juste une petite digression, s'il vous plaît. On discutait tout à l'heure et vous me disiez que vous n'aimiez pas trop le terme de francophonie. Pourquoi ?
Bon, je n'aime pas ce terme-là pour tant de raisons. D'abord, je trouve qu'il n'y a pas d'anglophonie. C'est comme si le puissant ne se nomme pas. Dès que vous vous nommez, c'est que vous êtes en état de défense. Vous essayez de rassembler la troupe. Et ça signale à l'autre, c'est lui qui est dans l'action. Je me souviens, quand la négritude était arrivée, à un certain moment donné, un écrivain africain avait dit « Le tigre n'annonce pas, ne crie pas, il se contente de sauter sur sa proie, ça s'appelle la tigritude. » Et que c'est comme ça, et que déjà se nommer, c'est se présenter à quelqu'un qui peut nous identifier. Et c'est l'une des raisons pourquoi les classes sociales puissantes ne se nomment jamais, ne parlent pas. Un trait, quelqu'un m'avait dit, les vraiment riches américains ne se présentent dans les médias, surtout les femmes, que pour se présenter dans le monde quand elles ont 18 ans, le grand bal, et puis aussi mariage et à la mort. C'est-à-dire que je n'aime pas cette façon. Ensuite, la francophonie a quelque chose lié à beaucoup plus à l'économie, beaucoup plus à la politique qu'à la culture. Alors que c'est la culture qui l'a comme mise en place. Et n'oublions pas que c'est beaucoup d'écrivains africains qui ont été à la source de cela, dont Léopold Sédar Senghor. Et donc, j'ai trouvé que la troisième raison, c'est que la France n'a jamais fait partie de cette francophonie. Elle n'a jamais trouvé que ça avait un intérêt. Donc précisément parce que le puissant ne se nomme pas. Il dit, se nommer, dire francophonie, c'était dire hors de l'espace de l'Hexagone. Donc je ne veux pas être identifié. Et puis un jour, on a eu l'idée, avec Michel Lebris de Saint-Malo, et les étonnants voyageurs, de faire quelque chose qui s'appelle littérature monde. Alors Debris m'a dit, peut-être qu'on devrait l'appeler littérature monde en langue française. J'ai dit, surtout pas. On va écrire en français. On n'est pas obligé de le dire. Littérature monde. Eh bien, on l'a fait. Alors, c'était nous, beaucoup d'écrivains africains. On était là avec le Brice qui trouvait que les écrivains venant du Sud avaient des prix et qu'il était temps d'identifier. L'un d'eux est ici, Alain Babancourt, qui a signé, qui était à l'origine. Eh bien, la France, celle de Paris, Philippe Solès a dit, c'est quoi ça veut dire, quoi, littérature monde? Alors, moi, je ne suis que un écrivain français, alors. Les autres sont des écrivains du monde. Un peu comme Gallimard, qui a une collection qui s'appelle Du Monde Entier. Je ne sais pas si vous connaissez. Eh bien, Céline a dit, je veux être dans cette collection. Gallimard a dit, non, c'est pour les écrivains traduits. Je m'en fous, je veux être dans la collection du monde entier. C'est-à-dire, tout le monde veut le monde. Alors, pourquoi pas moi, alors? Pourquoi pas moi? Donc, c'était ça. On n'a qu'à appeler ça littérature monde pour que les écrivains de Paris voudraient en être tout de suite. Si vous dites littérature francophone, et tout le monde se met à ronfler.
Catherine.
Alors, je reprends un petit peu sur les prix. Tous les prix ne sont pas dotés financièrement. On va parler un peu de finances, comment ça se passe.
C'est important.
Oui, il faut savoir que l'Académie vit sur fonds propres. Il n'y a que 7% du budget de l'Académie qui vient de l'État. Tout le reste vient de fonds propres, c'est-à-dire de donations que des gens ont fait à l'Académie avec ou sans instruction testamentaire pour utiliser ses revenus, les revenus de ses biens ou utiliser les biens qu'ils nous ont donnés. C'est comme ça que l'on peut remettre des prix littéraires, certains avec des montants financiers, et c'est comme ça aussi que l'on peut remettre des prix d'œuvres sociales. Alors, les prix d'œuvres sociales, c'est une partie qui n'est pas du tout connue de l'Académie française, mais toujours pareil, des gens ont donné des biens avec des instructions testamentaires. Les plus connus, mais dont on ne sait pas qu'ils dépendent de l'Académie française, par exemple, est un prix de famille nombreuse, qui est le prix de la Fondation Cognac-G. Cognac-G, monsieur et madame Cognac-G, c'était les patrons de la Samaritaine qui avaient une vocation très paternaliste pour leurs employés. Ils ont créé une école, un hôpital, etc. Et ils ont finalement donné des fonds à l'Académie française en disant « Vous redistribuez les revenus à des familles nombreuses ». À l'époque, c'était plus de 11 enfants. On essaye de s'adapter quand même. Maintenant, c'est 4 enfants minimum. Mais et donc, chaque année, on distribue des prix à des familles nombreuses. On distribue des prix à des gens dans le besoin. On distribue des prix à des veufs. On distribue des prix à des petites associations. Mais on a aussi toute une partie de mécénat scolaire. On donne à des jeunes gens qui arrivent. Alors, c'est toujours pareil. Les donations sont parfois très limitées géographiquement. Par exemple, le prix Paul Neveu, c'est pour des enfants d'école primaire qui sont primo-arrivants en France et qui ont fait des progrès remarquables en français. Et ça se passe en Alsace, uniquement en Alsace. Donc, on récompense des jeunes qui arrivent du monde entier et qui ont fait des progrès remarquables en français. Mais on récompense aussi, on donne des bourses aussi à des étudiants qui vont faire une thèse à l'étranger. Donc c'est assez varié et tout ça est décidé. On reçoit des dossiers, on en discute en commission. Dany fait partie d'ailleurs de la commission et on essaye de distribuer le maximum de. Alors c'est pas beaucoup, hein. Malheureusement on n'est pas riche. Il faut des donations, il faut des dons. Donc, vous sachez que vous pouvez donner à l'Académie française pour pouvoir en distribuer. Et ce n'est pas toujours évident de pouvoir respecter exactement, et je n'arrive pas toujours à trouver les choses correspondantes. On a des fondations où, par exemple, il faut trouver une jeune femme qui est entre 17 et 24 ans, qui habite de préférence aux Batignolles dans Paris, et qui soit allé en préventorium, mais sans déclarer la tuberculose. C'est, à l'heure actuelle, impossible. Donc, on est en train de travailler aussi sur un regroupement de certaines fondations où je ne peux plus faire des propositions aux académiciens pour distribuer. Donc, on essaye de regrouper pour...
Ce qu'elle ne dit pas, excusez-moi, c'est un travail de fin limier. Et la première chose qui frappe, c'est que malgré le fait qu'on n'ait pas beaucoup d'argent, on n'arrive pas à le distribuer. Parce que ce n'est pas si facile de donner. C'est bizarre. Surtout quand les donateurs laissent des informations extrêmement précises. Il y a des gens, des fois, qui disent pas qu'ils sont dans le besoin. Et il y a toutes sortes de choses, mais quand ce n'est pas distribué une année pour tel, et on reporte ça sur l'année prochaine, sur l'année suivante, et on a un peu plus. Donc, ça ne va que à cela. Les donateurs, donatrices sont toujours très, très précis et sur cette question d'argent, et l'Académie et a un devoir moral d'être le plus proche possible. Elle fait toute l'année un travail pour essayer de retracer, pour voir, et ça n'arrive pas et toujours, mais on fait le plus possible.
C'est aussi pour ça qu'on en parle, qu'on essaye d'en parler, pour que les gens puissent savoir que ça existe et qu'ils peuvent s'adresser sur le site de l'Académie. Il y a toutes les informations. Alors, on fait d'autres choses, pardon.
Allez-y, oui, oui.
On fait d'autres choses aussi. Il y a toute une partie d'action pédagogique. L'Académie a des accords, enfin, une convention qui est signée avec l'Éducation nationale. Et il y a plusieurs actions. On reçoit des écoles, on travaille avec des professeurs de français principalement, mais ça peut être aussi d'art plastique ou d'histoire, sur un thème particulier. Et les gens qui travaillent au service du dictionnaire préparent ces thèmes et rencontrent les classes, travaillent avec le prof, voient 2-3 fois la classe en dehors et font une visite après de l'Académie avec éventuellement un académicien. Mais ils travaillent aussi dans des établissements scolaires un peu plus élevés en niveau pour travailler, par exemple, sur l'introduction de nouveaux mots, ou pour essayer de rester dans l'actualité, sur l'intelligence artificielle, par exemple. Et là, ils travaillent sur un projet dans un doctorat pour faire... C'est le projet de fin d'études des étudiants, pour faire un petit jeu informatique sur la langue avec des exercices de langue. Voilà. Donc, il y a différents aspects qui sont traités au sein de l'Académie qui ne sont pas connus et qu'on essaye aujourd'hui, en tout cas, de faire découvrir.
Et alors, vous avez parlé du dictionnaire.
Oui.
Comment vous êtes impliquée dans ce projet ?
Alors, moi, je ne fais pas partie du tout du service du dictionnaire. En revanche, on en discute quand même entre nous. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que sur le site de l'Académie, par exemple, le dictionnaire est accessible en ligne sur les 9 éditions. C'est-à-dire, vous pouvez aller voir la définition d'un mot depuis 1634 jusqu'à nos jours et voir l'évolution de la langue.
L'évolution de la France. C'est-à-dire que c'est un dictionnaire d'usage. Quand les gens disent l'Académie est en retard, ça veut dire la France est en retard sur telle question. Puisque nous ne consignons que l'usage. C'est-à-dire, c'est un dictionnaire, c'est le contraire du snobisme qu'on dit l'Académie est snob. Pas du tout, au contraire, nous ne prenons que des mots que les gens du peuple disent. Que les mots seulement. Et pourquoi, par exemple, on ne prend pas des jeunes gens bien excités et disent pourquoi on ne prend pas tel mot dont on parle ces temps-ci ? Seulement, il y a d'autres dictionnaires qui les prennent, bien sûr. Pourquoi vous ne faites pas comme le Robert ? Eh bien, le dictionnaire de l'Académie française prend un temps très long, non terminé, à presque 40 ans, la 9e édition. Pendant ce temps, des mots, des expressions étaient dans le langage courant, sont sortis. Puisque la langue est un organisme vivant, il accepte, il rejette les gens, les modes, les changements d'humeur. C'est extraordinaire un mot qui arrive à rester. Vous ne demandez pas quelle force de caractère a un mot pour accepter de circuler dans des bouches parfumées, des bouches sans dents, des bouches de bébés, des bouches de... Et résister à travers le temps et rester présent. Eh bien, les mots partent, les expressions partent. Je me souviens, chaque fois que je venais à Paris, il y avait une expression, ben, il n'y a pas photo, il y avait des expressions, ça ne va pas être possible, il y en a certains qui restent pas, c'est les expressions. Il y avait des mots aussi, tout du long, tout du court, enfin, et sans compter les enfants en apportent chaque jour quand ils vont à l'école. La langue est un laboratoire actif, c'est sans cesse des mots nouveaux arrivent. Pendant ces 30 ans, eh bien, les mots sortent, ceux qui restent, on les garde. Et pourquoi ils restent? Ils sont dans le dictionnaire. C'est parce que les Français ont continué à l'employer. Donc, et pourquoi tel mot garde son sens? Le mot femme, je crois que c'était Au début, première édition, je crois que c'était femelle de l'homme. Ensuite, à la neuvième, c'est presque pas mieux. C'est sur la procréation. Et Jean Dormesson avait trouvé une définition, je ne sais pas à quelle édition, mais c'était un peu plus poétique. C'était un genre qui embrasse l'homme. C'est déjà, c'était plutôt l'homme un genre qui embrasse la femme, mais vous voyez, dans ma révolution, l'homme un genre qui embrasse la femme. Et pour expliquer toute cette question de... Donc, mais toute cette vision qui nous étonne maintenant était vue comme naturelle, le sexe faible, qu'on ait tout ça. Les gens disaient, tous les scientifiques, les intellectuels, les gens de la rue, les femmes surtout, le sexe faible, qui nous paraissent, eh bien, c'est aussi la mémoire de notre sensibilité, la mémoire aussi de nos injustices par rapport à nous-mêmes. Et c'est une leçon que d'aller sur le portail de l'Académie française du dictionnaire et de voir comment nous avons évolué. Eh bien, au lieu de ça, on critique, on dit... Alors là, quand même, que fait l'Académie française? Les gens refusent le miroir. C'est un miroir, ce dictionnaire. Il dit qui nous sommes. La langue va lentement. C'est pour ça qu'on a inventé une institution qui va lentement. La langue donne l'impression d'aller vite. Elle consomme beaucoup de mots, en recrache la grande majorité, et garde un peu comme nous, là, vous allez voir, dans moins de 10 ans, et garde quelques-uns. Eh bien, c'est comme ça que fonctionne. Chaque critique faite sur l'Académie est une autocritique. Est une autocritique. Si vous voulez aller vite, il y a des dictionnaires qui vont très vite. Seulement, à un moment donné, ils font des refontes et ils doivent, disons, écrémer, désherber. Par exemple, le dictionnaire de l'Académie, l'un de ses intérêts, son véritable intérêt, c'est exactement ce qu'on conteste. Le dictionnaire d'Académie est un dictionnaire subjectif, fait avec des sensibilités d'une époque. L'idée, c'était simplement de réunir les gens qui ont un peu de talent, tu vois, Racine, Corneille, La Fontaine, et Boileau, d'un coup, dans la même salle. Et pour faire un dictionnaire, et ils ne signent pas leur nom. Vous ne pouvez pas savoir l'ego d'un écrivain. Allez dire à Racine qu'il ne doit pas signer. Donc, ils ont dit que la langue est tellement importante, on va donner du temps et on ne signera pas ce grand livre qui s'appelle « Le dictionnaire de l'Académie française ». Vous vous demandez quelle modestie ça prend pour donner tout son temps, des gens quand même assez sérieux. Corneille, c'est pas n'importe qui, hein. Son égo, c'est les dimensions de Rouen. Et bien, il n'a pas signé. Et c'est ça que cette langue, maintenant, comment elle évolue. Et Corneille sait très bien, Racine sait très bien ce qu'est le cœur de la femme pour quelqu'un qui a lu Phèdre. Mais pourquoi a-t-il accepté cette définition réductrice? Parce que c'est ça qu'on a murmuré dans la rue. C'est ça que les gens disent. Donc, le dictionnaire ne rapporte pas uniquement, il tente des fois d'influer, puisque précisément, ce sont des gens capables, mais il ne faut pas arriver à destination avant le cheval. Il faut y aller lentement, parce que la langue est un organisme vivant. Elle va rejeter les mots qui croient qu'ils peuvent s'imposer par l'idéologie, s'imposer par des notions politiques, s'imposer par une vitesse d'époque, par la mode. La langue se nourrit de mode, mais la rejette à tout moment. Donc on doit faire attention. Vous voyez, il faut un doigté d'artificier pour manipuler quelque chose qui va être dans la bouche des gens. 3 jours après le tremblement de terre de Port-au-Prince, un premier mot a circulé pour désigner cette extravagance. 300 000 morts en 35 secondes. C'était le mot « la chose ». On l'a appelé « la chose ». On n'osait pas dire le mot. On disait « la chose ». 5 jours, le mot goudou goudou est arrivé. Le mot goudou goudou n'est pas la chose, ne veut pas dire ce qu'il ne faut pas dire, ne tente pas de cacher la douleur. C'est un mot fantaisiste qui veut dire simplement, qui reprend le bruit qu'on a entendu pendant le tremblement de terre, qui est exactement le bruit qu'on fait quand on déverse une bouteille, qui fait goudou 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 goudou. 300 000 morts. Et le mot qui s'est installé, c'est un mot fantaisiste. Le bruit qu'on a entendu, qu'on a assimilé au bruit de la bouteille et qui est resté jusqu'à aujourd'hui. Personne n'a su comment, en moins de 5 jours, 13 millions de personnes ont accepté le même mot. Comment, sur tout le territoire, la langue va à une vitesse incroyable, mais se retire très lentement.
Merci. Alors, on arrive au bout de nos 45 minutes, mais peut-être que s'il y a une ou deux questions, on pourrait les prendre. Oui ? Oui.
Vous attendent. Oui. L'une des questions que l'on dit de l'Académie française aussi, c'est ce choix un peu snob. Vous savez, c'est quand même une académie qui a refusé 24 fois Zola. C'était pour des raisons politiques, hein, on n'est pas toujours... C'était pour des raisons politiques, un peu l'affaire Dreyfus, mais on dit aussi que c'était pour la question du naturalisme. Et donc, des choses comme ça. Mais quand même, il faut savoir que vous n'êtes pas on n'est pas obligé d'avoir écrit un livre pour entrer à l'Académie française. On n'a qu'à simplement écrire une lettre la plus brève ou la plus longue, comme nous voulons, seulement à la main, c'est mieux, parce que nous écrivons encore à la main à l'Académie française. C'est le dernier rempart de cette vitesse où l'on écrit à quelqu'un 3 fois dans la journée pour lui dire que je vous ai écrit, vous ne m'avez pas encore répondu. Et on lui écrit pour lui dire merci de m'avoir répondu. Et l'autre répond pour dire merci de m'avoir répondu que vous m'avez répondu. Cette diarrhée verbale nous échappe par une petite chose qui s'appelle écrire à la main. La poste apaise. Ça calme les nerfs. Ça prend 4 jours, donc le temps d'écrire, de répondre. Et on a formulé une question plus sérieuse. Donc l'Académie vous fait une petite lettre. Et on reçoit, et vous êtes nommé, vous êtes sur le tableau de gens qui, n'importe qui, n'importe quel individu de langue française, même pas de nationalité française, la preuve, je ne suis pas de nationalité française. Vous savez pourquoi j'ai pu entrer sans être de nationalité française? C'est parce que la secrétaire perpétuelle, à l'époque, Madame Hélène Carrère-Dancausse, a posé la question au président de la République, qui est le protecteur de l'Académie, lui demandant « Est-ce que l'Académie, c'est l'Académie de la langue française ou l'Académie de la France ?» Il a répondu « De l'Académie, c'est l'Académie de la langue française. » Mais encore plus, il n'y a pas dans les lois de l'Académie quelque chose qui interdit à un étranger d'entrer à l'Académie, ni même d'avoir écrit en français. Et vous savez pourquoi ? Ben c'est la France. On n'a pas pensé qu'un individu qui ne soit pas né en France puisse parler français assez bien pour être à l'Académie française. Eh bien, on a eu tort. Parce que le Québec est en rempart face à ce qu'on appelle l'envahissement de l'anglais sur le territoire du Canada et peut-être même pour la langue française. On a eu tort parce que en Haïti, la langue française est si précieusement conservée, si quelqu'un fait une faute de français à la radio, il doit quitter au moins son quartier. Personne ne lui parle. Un individu aussi devrait être condamné. Donc, pour vous montrer comment la langue... Et en plus, on vous suit. Hein. Par exemple, en France, tout le monde met tout au présent. Mais par exemple, si vous êtes ministre et que vous commencez une phrase à la radio et... on a l'impression que ça devrait être suivi par un passé composé deuxième forme et qu'on vous attend et que vous avez été assez lâche pour reculer et employer un imparfait du subjonctif, malheureux imparfait du subjonctif, eh bien, vous aurez des problèmes. Qui échange un passé composé deuxième forme par un imparfait du subjonctif aujourd'hui en France? Tout est au présent, parce qu'on est tous des lâches. On a peur de la nuance de la langue, de toutes les petites colorations infimes qui fait le bonheur de cette langue et nous empêche de nous cogner l'un sur l'autre et de passer notre temps à admirer la formulation de l'autre.
Merci. Merci Daniela Ferrière, merci Catherine Mariuzzo. Je vous propose donc de retrouver Daniela Ferrière demain au théâtre, tout de suite en signature, et demain au théâtre à 11h30 pour parler de son dernier écrit. Merci. Merci.